Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Rôliste, ici Myst, et ce soir nous allons parler initiation et attente. Comment initier de nouveaux joueurs? Comment s'initier soi-même? Par quel jeu commencer quand on n'a jamais fait de jeu de rôle? Pour répondre à ces questions, nous sommes quatre.
Bonsoir.
Bonsoir, c'est Farfa.
Salut, Eric.
Et Sam, du coup. C'est vrai que comme émission, c'est assez ambitieux, initiation et entente, c'est assez large. Je pense que chacune et chacun a sa petite idée là-dessus. L'idée de cette émission a germé d'une discussion sur le Discord de Radio Rôliste, avec notamment les personnes qui arrivent sur les réseaux ou sur des serveurs rôlistes et qui disent avec quel jeu je peux commencer à jouer, ou alors qui jouent déjà mais qui demandent avec quel jeu je peux commencer à maîtriser, arbitrer, faciliter. Et du coup, vraiment, la palette de propositions et de suggestions est assez vaste. Et c'était un petit peu de nos avis personnels, et essayer aussi de cadrer un peu ça, définir les enjeux, notamment les enjeux de l'initiation et les attentes qu'il peut y avoir, notamment qu'est-ce qu'un bon jeu pour débuter, initier, et toutes les thématiques qu'il peut y avoir autour.
Et aussi les attentes des gens qui veulent s'initier. Parce que je sais qu'on en avait discuté et qu'il y a des gens qui arrivent parce que ils ont vu...
Stranger Things.
Voilà, ou The Big Bang Theory, dans des séries, ils ont vu des personnages qui jouaient à des jeux de rôle et ils se sont dit, tiens, ça a l'air sympa, j'ai envie de faire ça. Et c'est sûr qu'il faut tenir compte aussi de ces attentes-là, quoi.
Clairement, les attentes sont assez essentielles, parce que moi qui pensais que beaucoup de personnes auraient préféré des jeux accessibles ou simples pour débuter, j'ai eu aussi des échos de personnes qui étaient frustrées de ne pas avoir assez de mécanique. Alors, ce soir, on ne va pas vous parler de Pathfinder 2, évidemment. Mais des personnes qui étaient frustrées de ne pas avoir assez de mécanique ou des jeux trop light. Et à contrario, des personnes qui, quand on les met devant une fiche de personnage, ne sont pas du tout accrochées par le principe et vont plutôt préférer des jeux plus narratifs pour s'initier. Donc, vraiment, c'est assez large, je pense, en termes d'attente aussi.
Et effectivement, les gens qui ont envie d'essayer parce qu'ils ont vu des séries, les deux qu'on a cités de séries, si je dis pas de bêtises, dans les deux cas, ils jouent à Donjons et Dragons.
Oui.
Et c'est vrai qu'on va pas parler de ce genre de jeu ce soir, mais si les gens, c'est ça qu'ils veulent faire, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui accrochera si c'est ça qu'ils attendent, quoi.
Ça dépend si c'est vraiment du D&D qu'ils veulent ou si c'est plus l'ambiance Heroic Fantasy, auquel cas, peut-être, il y a moyen d'avoir d'autres possibilités. Si les gens veulent absolument jouer à D&D, pourquoi pas, hein.
Eric, je pense que nous en parlerons plus longuement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent absolument jouer à Donjons & Dragons, pour les diverses raisons que vous avez déjà citées. Et dans la culture de D&D, il y a quand même une culture de la boîte d'initiation, depuis que le jeu existe, et... Pour avoir, il n'y a pas plus tard que 5-6 ans, joué à la boîte d'initiation de la 5e édition avec des amis, ça s'est plutôt bien passé. Mais parce qu'on avait une culture ludique et rôlistique déjà en place. Donc on va discuter de ça aussi, quoi.
C'était pas des débutants, quoi. Vous aviez déjà une culture rôliste.
Un petit peu.
Rôlistes ou gamers, des gens qui ont l'habitude de compter les pions sur un jeu de plateau ou les points sur un jeu vidéo.
Ouais, c'était gamer, ouais, gamer au sens large en fait. Hein. Pas beaucoup de jeux de rôle, mais gamer quand même, quoi.
Ouais.
Alors, tant qu'on est à parler de D&D, moi j'ai quand même un exemple concret de jeunes qui se sont appropriés un peu l'univers. C'est-à-dire que j'ai mon fils qui est revenu en disant « Ah, j'ai des copains, ils font du jeu de rôle, c'est du D&D, mais en fait, ils ont viré tout le système de règles et ils le jouent en narratif pur. » Donc ils sont juste inspirés du lore. Et c'est tout ce qu'ils ont gardé. Et ils en ont fait vraiment leur jeu.
Bah, je pense qu'ils ont bien fait. Mais,
alors, en tout cas, ils s'amusent, donc c'est le principal.
Tu me rappelles que j'ai eu une conversation une fois avec un jeune d'une vingtaine d'années à qui je parlais jeu de rôle en lui disant t'en as déjà fait. Il me dit oh non, pas vraiment. Enfin, ça fait quand même 2 ans qu'on joue en ligne avec des potes et qu'on a notre univers et qu'on raconte des histoires et que de temps en temps on lance des dés, mais c'est pas vraiment le vrai jeu, alors ça compte pas. Non, mais c'est bon, mec, t'es rôliste.
Non, mais c'est quand même rigolo de se dire qu'il se sent pas légitime à se dire rôliste, du coup.
Ouais, carrément. J'ai peur d'avoir convaincu.
Bah oui, j'espère. Moi, j'ai un collègue qui a beaucoup fait de jeux de rôle quand il était plus jeune. Je pense qu'il n'en fait plus trop. Et ses deux filles lui ont réclamé, suite au visionnage de Stranger Things, de faire du jeu de rôle, mais spécifiquement du Donjon et Dragon. Et il a essayé de les convaincre que, quand même, c'était un peu touffu pour commencer. Donc, je pense qu'il va faire des règles maison un peu pour simplifier le truc, mais qu'elles aient quand même l'impression de jouer au même jeu, quoi.
Après, c'est aussi le jeu dont on parle le plus dans les médias mainstream, je vais dire, je sais pas si c'est le bon mot, mais il y a eu le film Donjons et Dragons. Quand on voit les séries, bah, en fait, c'est des séries américaines et bah, aux États-Unis, D&D, c'est quand même. Je vais pas dire que c'est le seul auquel ils jouent, mais c'est l'image que j'en ai, c'est que quand même, ils jouent quasiment qu'à ça, quoi. Les autres, c'est plus anecdotique.
C'est une marque, c'est le seul jeu qui est trouvé depuis les années 80 et puis maintenant plus récemment avec Stranger Things et Critical Role et des choses comme ça. C'est le seul jeu qui trouvait une vraie reconnaissance ou une, je sais pas comment on dit en marketing, il y a un mot pour savoir que ta marque est reconnue par des gens même qui l'utilisent pas.
Une identité.
Il y a une reconnaissance de marque ou une identité de marque qui fait que quand tu parles des jeux de rôle à des gens, en tout cas dans un pays anglophone, si tu dis jeux de rôle, ils ne voient pas trop ce dont tu parles. Et quand tu dis c'est comme Donjons et Dragons, là tout de suite, ils ont une très vague idée. Alors même si l'idée n'est pas forcément. Quand tu creuses la question, ils peuvent s'imaginer que tu fais du GN habillé en magicien à lancer des boules de feu en caoutchouc. Ou que tu fais du théâtre ou autre chose, ou quelle que soit la préconception qu'ils ont, mais Donjons et Dragons, ça leur dit quelque chose tout de suite, quoi.
Clairement. Du coup, alors on a établi un cahier des charges, alors il est assez succinct. L'idée, c'était quand même de faire quelque chose d'assez simple et d'accessible, et surtout, je pense qu'au moins, tout le monde peut s'amuser à essayer d'y faire rentrer sa proposition, puisque finalement, le cahier des charges, il tient sur 4 piliers. On a d'abord le coût d'entrée pécunier. Ça nous semblait assez important de mettre l'accent là-dessus, parce que finalement, ben voilà, il suffit d'aller un peu sur Internet pour voir certains coûts d'entrée en matière de jeux de rôle qui peuvent être assez élevés, sachant que c'est quand même un loisir qui finalement n'a pas besoin de grand-chose, à part un support de règles, papier, crayon et parfois des dés. Et du coup, on peut se retrouver avec des jeux qui demandent quand même un investissement financier assez important. Donc, le coût d'entrée pécunier semblait être important dans ce cahier des charges. Ensuite, on a voulu mettre l'accent sur le coût d'entrée d'investissement personnel. Donc là, ça va être notamment le temps de lecture, la complexité pour peut-être... s'approprier le jeu, se sentir de le mener, de l'arbitrer. En troisième, nous avons la complexité mécanique. Donc là aussi, hein, ça va être assez large. On a tout et n'importe quoi. Hein. On a des choses qui sont très très simples et puis on a des tableurs Excel en guise de perso, de fiches de personnages. Donc ça, c'est un critère assez important parce que concrètement, c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle avec des personnes qui débute, j'ai pas su quoi faire devant cette fiche de perso, j'étais complètement perdu, ça m'a totalement tétanisé. Alors que bon, au final, qu'est-ce que c'est du jeu de rôle? C'est d'écrire une action et voir ce qui se passe, quoi. Donc après, on peut y mettre toutes les fioritures qu'on veut, mais l'essence même, c'est ça. Donc la complexité mécanique. Et ensuite, l'accompagnement de la facilitatrice, l'arbitre ou la meneuse. Pour mener le jeu, ben, du coup, ça va être les conseils. Vas-y, lance-toi, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Approprie-toi mon univers, ce genre de petits conseils qui mettent en confiance, en fait.
Tout à fait.
Et on espère qu'avec ça, ça vous donnera une bonne idée de ce avec quoi vous préférez commencer. Ou alors, s'il n'y a rien qui vous plaît, bah, contactez la rédaction et on fera un deuxième épisode.
Voilà. Voilà, nous, on va faire des propositions de jeux auxquels on a pensé. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Évidemment, c'est par rapport à nos goûts personnels aussi. On espère que ça plaira et que ça aidera des gens.
Ouais, clairement. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire vos retours et puis à proposer aussi des jeux. Je pense que le petit axe de réflexion autour de ça peut aider. Quoi.
N'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire, ah bah tiens, moi, j'aurais bien... j'aurais parlé de ça ou de tel jeu. Ça nous fera plaisir. On découvrira peut-être de nouveaux jeux qu'on ne connaît pas. Donc, c'est toujours cool.
On accepte tout sauf Pathfinder 2. ok, du coup Eric, tu veux te lancer?
Ouais, c'est pas plus mal parce que on a dit qu'on n'avait pas parlé de Donjons et Dragons et en fait.
Non mais on se refait pas. Ça fait juste 5 ans que je joue à Donjons et Dragons, mais sous plein d'autres formes.
Honnêtement, et je vais faire ma petite déclaration d'intérêt avant de commencer, je pense que c'est difficile de trouver un truc qui pour moi me paraîtrait mieux pour commencer à jouer, parce que Old School Essentials, donc le jeu dont je vais vous parler, regroupe toute notre qualité que vous allez comprendre. En fait, il y avait un concours entre nous quatre, ça serait moi qui gagne, vous voyez ce que je veux dire. N'oubliez pas de voter, écrivez, envoyez un SMS, 9,99€ la seconde. Donc Old School Essentials, c'est quoi? Ben, c'est Donjons et Dragons de 1981. C'est un jeu qui a été réécrit, réorganisé par un Anglais qui s'appelle Gavin Norman, qui a eu la très très bonne idée de reprendre un jeu qui a toujours plu à beaucoup de gens depuis les années 80, comme une version quasi parfaite de Donjons et Dragons dans un certain esprit. Alors, c'est vraiment pas le Donjons et Dragons de la 5e édition tel qu'on le voit sur les ondes de YouTube, ou tel que vous pouvez le voir si vous essayez de créer un personnage en ligne. C'est un jeu qui est plus simple, qui avait été écrit parce que la version originale de Donjons et Dragons était un peu imbitable pour beaucoup de gens. Et un fan avait envoyé un manuscrit à Gary Gygax, donc l'auteur, un des deux créateurs de Donjons et Dragons, qui était à la tête du projet de la société à l'époque, en disant « Il est bien votre jeu, mais mon fils qui ne fait pas des wargames napoléoniens depuis 10 ans comme vous, il a un peu du mal à jouer. Alors je me suis dit que j'allais réécrire un peu votre... en expliquant un peu vos règles et refaire quelques livrets, etc. » Et ça a bien marché. On a vu, c'était la première boîte d'initiation de Donjons et Dragons, la première boîte de Basic D&D. Donc la boîte de base, et on en a vu trois autres éditions au fur et à mesure des années 4. Non, trois autres éditions, je crois qu'il y a eu quatre boîtes de base jusque dans les années 90, en parallèle de la version avancée de D&D. Tout ça pour dire que à l'époque, ça marchait, c'était calibré pour apprendre le jeu, pour être joué par des gens plus jeunes que les étudiants ou les fans de Wargames qui avaient commencé à jouer. Et quand on est arrivé à l'époque de la 3e édition et que je vais pas vous refaire l'OGL, les rétroclones, tout ça, l'OSR, on vous mettra un lien vers les épisodes où on en parle parce qu'il y en a plusieurs. Quand il a été possible de faire des jeux inspirés voire reprenant carrément les règles de ces anciennes versions de D&D, la version de 1981 s'est retrouvée clonée au moins par quatre jeux différents. Il y a au moins quatre auteurs qui en ont fait le cœur de leur jeu, comme donc Lamentations of the Flame Princess, Basic Fantasy, Labyrinth Lord, qui a une version française dont on parlera peut-être. Mais Old School Essentials, depuis 2019, si je ne m'abuse. Je ne m'abuse pas parce que j'ai des notes, c'est écrit juste au bon nez. C'est la version la plus simple d'apprentissage et d'abordage et dans la façon dont c'est organisé, c'est juste parfait. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a des choses à redire sur les règles parce que c'est quand même les règles des années 80 et... Gavin, quand il a fait son travail de réorganisation, il n'a pas voulu toucher au truc qui lui lui paraissait ne pas marcher très très bien parce qu'il voulait vraiment faire un truc qui soit presque un moule d'historien, quoi. Stam, c'est un jeu que tu connais. Je crois qu'on pourra même peut-être même des liens vers les parties que tu avais faites sur ta chaîne. Je crois que tu as tué un ou deux de mes personnages d'ailleurs. Non, t'as tué un. Je crois que le deuxième, je suis pas revenu.
Oui, c'est ça.
Comment vous expliquer que c'est Donjons & Dragons, mais c'est pas la cinquième édition? Déjà, c'est pas un jeu de combat, c'est pas un jeu où ta feuille de personnage va avoir quatre pages, dont trois qui vont être des actions de combat. C'est pas un jeu à compétences où ton personnage, s'il a pas le bon chiffre au bon endroit, ben, il sait pas monter à cheval, ou il comprend pas quand on lui parle trop intelligent, ou il n'est pas capable de voir devant lui parce qu'il a raté son jet de perception. Tous ces trucs-là, ça n'existe pas, c'est juste de la conversation. Et on se retrouve avec des joueurs qui ont une feuille de personnage très très simple, et qui, quand on leur pose un problème, quand il y a une quelconque difficulté, une quelconque embûche dans la partie, ils la résolvent dans la fiction parce qu'ils n'ont pas une liste de feuilles de personnages qui disent « Ah, mais attends, moi j'ai le pouvoir qui permet de débloquer et puis je peux appuyer sur tel bouton et faire ça. » Ça discute et ça essaye de résoudre un problème. « Attends, toi, tu parles le gobelin, donc peut-être que tu pourrais essayer de leur faire croire qu'on est leurs amis. Comme ça, on pourrait les envoyer sur une fausse piste et pendant qu'ils foutent le bordel chez les orques, on va leur piquer leur trésor et on fait ce qu'on a dit comme on avait prévu. Et on se retrouve donc avec des gens qui s'éclatent à résoudre des problèmes dans un univers fictif en faisant des bêtises et ça marche pas toujours et il faut partir en courant et c'est comme ça qu'on rigole, quoi. Et en tant que joueuse, tu n'as pas de règles compliquées à connaître. Tu peux même venir sans connaître la moindre règle parce que finalement il n'y a pas tant de jet de dé que ça, donc ta MJ pourra te dire voilà, tu jettes un D20 et si tu fais beaucoup c'est bien. Là, tu jettes 2D6 et t'essayes de te faire pas beaucoup, sinon le gobelin, il va être de mauvaise humeur et il va essayer de manger ta tête. Donc voilà pour la présentation, un peu parti un peu dans tous les sens. C'était bien que j'avais des notes parce que je les ai pas prises du tout dans le même ordre. Est-ce qu'il y a des questions?
Non, c'est plutôt exhaustif. Après, ce sera bien qu'on reprenne un petit peu le cahier des charges.
Ouais, bien sûr.
Mais du coup, moi, ce qui me frappe, je pense qu'on a des accointances de goût sur les jeux. Et ce que j'aime dans ces jeux-là, c'est ce que tu as souligné, c'est le fait que tu n'as pas besoin de te pencher sur ta fiche pour trouver des solutions. C'est de la conversation. Et franchement, tu peux, sur ce genre de proposition, que ce soit OSE ou d'autres, School Essential ou d'autres, tu peux passer une heure, deux heures sans jeter les dés et faire avancer une histoire. Donc finalement, on n'est pas très loin des jeux très narratifs, avec des mécaniques très simples, parce que du coup, ben, vraiment, des fois, tu te retrouves avec une heure, deux heures sans jeter de dés, sans que la mécanique vienne s'inviter. Et je trouve ça fantastique, en fait, d'arriver à ce résultat-là, avec quelque chose qui, de premier abord, te dit « Ah ouais, mais en fait, c'est Donjons & Dragons, mais pas vraiment, du coup. » Avec l'image que les gens en ont maintenant de Donjons.
Du coup, comme on parlait tout à l'heure des gens qui arrivent en disant « je veux essayer le jeu de rôle parce que j'ai vu dans Stranger Things ou dans une autre série et ça a l'air trop cool et je veux essayer du D&D », ça peut être une possibilité de dire « attends, D&D, c'est quand même, les règles sont quand même assez complexes, j'ai quelque chose d'autre à te proposer, c'est un peu dans l'idée de D&D, mais en beaucoup plus simple de au niveau des règles, hein. Et voilà, ouais. Quoi. »
Complètement, et puis en plus, c'est vraiment les règles avec lesquelles ils auraient joué si Stranger Things était vraiment passé dans les années 80, parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Après, il ne faut pas non plus mentir aux gens, on n'a pas le côté un peu super-héroïque, film d'aventure, Avengers avec des épées de la cinquième édition, qui est plus, je n'ai pas envie de dire cinématique, mais qui te pardonne tes erreurs et qui fait des personnages hyper cool dès les premières parties, etc. Alors, on est quand même sur un jeu pas simulationniste, mais quand même difficile. J'ai presque envie de dire difficile, où les erreurs pardonnent peu, en tout cas au début. D'accord. Bon, évidemment, rien ne t'empêche de commencer une campagne au niveau 5 pour que tu puisses te permettre de prendre un mauvais coup, ou deux ou trois, si tu... tu insultes la mauvaise personne. Dans un donjon, il faut toujours être poli.
Oui. Et c'est vrai que ça, c'est important à dire parce que quand on n'a pas les réflexes, justement, qu'on ne connaît pas du tout le milieu, peut-être qu'on ne réalise pas toujours le danger d'une situation.
Ça peut être punitif, ouais.
Ouais. Et du coup, Sam, comme tu parlais du cahier des charges, si on le reprend, au niveau investissement pécunier, tout ça, ça donne quoi ?
Alors, j'ai fait mes devoirs. Old School Essentials, il a été traduit par 500 nuances de geek. C'est d'ailleurs ma petite déclaration d'intérêt que je n'ai pas faite. J'ai traduit la toute première version qui avait été libérée gratuitement sur la Caravelle, où on avait juste traduit ce qu'il faut pour jouer aux deux premiers niveaux. Ça remonte à quelques années, et Old School Essentials, c'est aussi notre jeu de prédilection et notre système de référence pour tous les bouquins qu'on sort avec les Merry Mushmen. Ceci dit, on ne touche pas d'argent sur les trucs que Gavin vend. Mais c'est un système qui est tellement... c'est une lingua franca des gens qui jouent en Old School, en OSR. Tout le monde, même si tu ne joues pas avec ce système-là, tu en comprends les bases et donc tu es tout à fait capable d'adapter aux jeux qui t'intéressent les scénarios, les créatures, les monstres, les sorts, etc. Et c'est aussi important de dire qu'avec un jeu pareil, tu as une compatibilité avec à peu près tout ce qui se fait en OSR et tout ce que Donjons et Dragons a sorti de 1974 à 1999, quelque chose comme ça. Donc des choses que tu peux trouver en PDF pour vraiment pas cher, voire gratuit si tu sais où chercher, mais c'est mal. Tu as un répertoire de matériel qui est absolument infini. Il y a des scénarios qui ont été débloqués gratuitement chez 500 Nuances de Geek, et il y en a un certain d'un certain Sam, si je ne m'abuse.
Oui, effectivement. Ouais, c'est vrai qu'ils sont gratuits maintenant, du coup, en PDF. Pour les quatre scénarios exclusifs français.
Et donc, c'est même pas la peine de faire des adaptations.
Oui.
On a pensé à vous.
Ouais, c'est vrai que du coup, moi aussi, j'avais un petit intérêt. Mais...
Et donc, tu m'as posé une question. Je vais y répondre après avoir fait encore 10 minutes de dissertation. Pardon. Nuances de Geek, le livre complet avec toutes les règles est à 38 euros.
D'accord.
Tu peux, si tu préfères, ça c'est un choix éditorial, il existe aussi un coffret avec les règles déclinées en 5 bouquins. Donc un pour la magie, un pour les classes de personnages, un pour les monstres, qui peut rendre la vie un peu plus facile quand tu es autour d'une table et que quelqu'un a besoin des références, qui lui est à 78 euros.
Ok.
Bon, il y a un écran mais franchement pas nécessaire. Et si tu veux trouver ça en PDF, il me semble que c'est à 12 euros. 500 Nuances de Geek ne le vend pas, d'après ce que j'ai pu voir, mais c'est chez Philibert, par exemple, à 12 euros le PDF pour le bouquin entier. Sachant que toutes ces règles sont disponibles en ligne. Il y a un FRD, donc un système de un document de référence système.
Mmh.
Qui existe en français, qui lui est sur le site de l'éditeur anglophone. Et il y a toutes les règles. C'est pas comme le SRD de la 5e édition où c'est tronqué. Il faut que tu achètes les bouquins pour avoir toutes les options. Là, toutes les règles de base sont dessus et tu peux donc complètement jouer avec rien. Et si tu veux envoyer des références à tes joueuses, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Moi, je m'en sers très souvent pour vérifier des. Dès qu'il y a un truc à vérifier, tu fais une recherche, t'as tout.
Ces bouquins, c'est des gros bouquins, du coup ça...
Non, c'est des bouquins format A5.
D'accord.
Donc, je ne vais pas les avoir sous la main.
Donc, ça se lit facilement, c'est rapidement, ou quand même, t'as 50, 60 pages à lire ou, je connais pas du tout, donc c'est pour ça que je demande.
Je les ai pas sous les yeux là, mais je dirais qu'il y a entre une quarantaine et une cinquantaine de pages par petit bouquin, et donc le bouquin complet, il fait peut-être 250-300 pages.
Mais en A5 quoi.
En A5, sachant qu'une grande partie de ça, c'est des listes de monstres, des listes de sorts, des règles dont tu vas pas avoir besoin tout de suite. Une fois que tu as lu les sorts de niveau 1, il y en a deux pages. que tu as vaguement compris comment fonctionnent les classes, tu as besoin des règles d'exploration de donjons et peut-être d'exploration en extérieur, et c'est tout. C'est un truc dont je peux parler tout de suite d'ailleurs en matière de complexité mécanique et d'accompagnement de l'arbitre, puisqu'on dit arbitre, on disait arbitre à l'époque. On commence donc avec des situations qui sont simples, avec des personnages qui sont aussi très très simples, qui peuvent mourir facilement, mais qui peuvent être remplacés en 5 minutes. Et si tu commences par la première partie de jeu de rôle que tu mènes, c'est un donjon, vous êtes à l'entrée du château, qu'est-ce que vous faites ? C'est quand même vachement plus simple que tu commences une campagne épique où le village se fait attaquer, où tu essayes de faire raconter des flashbacks pour faire comme dans les films, etc. C'est nettement plus facile à gérer parce que tu vas pas avoir à improviser énormément. Ton scénario te dit que sur la droite, il y a un puits magique. Sur la gauche, il y a peut-être une limace géante qui a très faim. Et tout ce que tu vas faire, c'est de décrire ce que les joueuses, enfin, leurs personnages peuvent entendre ou sentir en se dirigeant dans une direction. Et tu mets tout de suite l'ambiance et tu flippes pas sur « Oh non, non, mais qu'est-ce qui se passe si jamais ils décident de faire X ou Y qui n'est pas prévu sur mes deux pages ?»
Je rajouterais qu'effectivement, juste sur les livres d'OSE, par rapport à l'investissement personnel en termes de temps de lecture, effectivement, si on met bout à bout tout le bouquin, ça fait beaucoup. Mais si tu prends vraiment les mécaniques de cœur, c'est assez modulaire et c'est assez succinct finalement. Et c'est vraiment une boîte à outils. Je veux dire, là, tu viens de prendre l'exemple d'un donjon. Si tu veux t'initier en faisant un petit donjon de 4 pièces pour la soirée, une heure ou deux, ben, je veux dire, tu vas pas aller t'embêter à lire les règles d'exploration à l'extérieur, ou tu vas pas aller t'embêter à lire les règles de trésor aléatoire, parce que dans ton donjon, tu auras tout prévu, et finalement, tu auras juste besoin vraiment de la base. Donc finalement, tu peux te lancer avec un petit donjon sur 2 pages, 10 pages de mécanique, et go, quoi.
D'accord.
Et okay. Puis les règles sont organisées de façon à ce que sur 2 pages, tu aies tout ce dont tu as besoin dans une situation ou une autre. Combat de pages, exploration de pages, exploration en extérieur, en char à voile de pages. Et comme ça ne prend pas beaucoup de place, tu mets ça à côté de ton petit scénario et tu as toutes les références dont tu as besoin et ça devient presque un jeu d'enfant.
Ouais, voilà. Donc sur un petit scénario, tu sais où tu dois, ce que tu dois aller chercher. Tu as tes 4 ou 5 doubles pages à aller lire et pour préparer ta soirée, tu n'en as pas pour énorme à prévoir, quoi, je veux dire.
Voilà. Et pour des gens, on n'a pas parlé des attentes et du public que ça pourrait intéresser, mais pour des gens qui ont fait du jeu de plateau façon Descent ou le jeu de Games Workshop Dungeon Quest ou des choses comme ça, qui veulent faire du vrai jeu de rôle après avoir explorer des donjons et tuer des monstres à base de dés sur un jeu coop ou un jeu de figurines, c'est très très facile à mettre en place, quoi.
Ok.
Donc ce serait plutôt pour les gens soit qui veulent faire un peu du traditionnel mais pas aussi compliqué, soit pour les gens qui aiment bien les wargames ou les trucs comme ça, quoi. Plutôt.
Ouais, pour... Oui, j'ai rien d'autre à rajouter, en fait.
Ouais, faut pas, avec ce genre de jeu, faut pas vendre au début, en tout cas, du jeu centré sur les personnages. Ça va venir, ça se fait, mais c'est pas le cœur du jeu, quoi.
Surtout si ton perso, si le jeu est assez punitif et que tu peux assez facilement perdre ton perso, si j'ai bien compris, mais que par contre, c'est très facile d'en refaire un nouveau, tu vas pas forcément t'investir autant dans ton perso. Oui, c'est pas comme tu dis, c'est pas le cœur du jeu, quoi.
Et puis, de toute façon, les jeux n'empêchent jamais de faire beaucoup de roleplay et tout ça. On peut toujours le faire quand on en a envie, mais quand c'est en ce qui me concerne, si c'est pas encouragé par les règles, j'ai du mal à le faire. Mais rien ne t'empêche d'en faire si t'as envie d'en faire, bien sûr.
Je pense que pour les gens qui sont un peu timides ou qui ont pas l'habitude de se mettre en avant en se faisant passer pour un elfe, en faisant des voix bizarres, ou qui rêvent pas éveillés pendant des heures et des heures au background de leur personnage, tout ce qui s'est passé dans leur vie d'avant. C'était idéal parce que on te donne une feuille, ou même quand tu crées ton personnage, hein, tu choisis une classe. Ben, je vais être clair. On te donne une liste de cultes que tu peux suivre. On te demande de l'inventer si t'en as envie, ou on te donne des suggestions. Tu jettes 2 dés pour savoir les valeurs qui sont aléatoires, et à partir de là, tu pars à l'aventure. Et personne te demande de faire de la dramaturgie. Si t'es pas prêt pour le faire.
Ok, ok.
Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère que c'était pas trop confus. Et puis, je pense qu'on pourra. Dame, tu vas nous parler d'un jeu qui est relativement proche d'un point de vue école de design. Et je pense que. Il y a des choses que tu vas dire en ce qui concerne le gameplay qui s'applique aussi à OSE.
Oui, effectivement, du coup, moi, le jeu que j'ai choisi donc, ce soir, c'est Cairn de Yoel Gael, du coup, qui est, je dirais que c'est un peu la nouvelle vague du old school, qui est née un petit peu avec Into the Odd de Chris McDowell, et il inspire aussi de Knev de Ben Milton. Et du coup, c'est pour moi quelque chose d'assez efficace. En tout cas, dans ma vision, il remplit vraiment toutes les cases du cahier des charges qui permet à quelqu'un de se lancer de manière assez simple et efficace. Déjà, Cairn, il est gratuit, en tout cas la première édition. Parce qu'il y a une deuxième édition en cours, le financement est fini depuis peu parce que vraiment, il a eu beaucoup de succès avec sa première édition et ça se comprend. Donc la première édition est gratuite. On trouve des traductions françaises assez facilement, notamment JP qui a fait une traduction de Cairn, et puis on trouve aussi la traduction du SRD, donc système de référence sur Itch.io en français par Le Crapal. Donc déjà, voilà, côté coût d'entrée pécunier, ben, c'est zéro. Sachant que il y a aussi un site, kenrpg.com, avec une version FR, où vraiment il y a une quantité de ressources incroyables. Avec tout un tas de ressources tierces et communautaires. Le jeu, lui, il fait moins de 30 pages. Donc pareil, en investissement personnel, en temps de lecture, c'est ultra accessible. Et là où je trouve... je reviendrai sur les mécaniques et le gameplay pour faire le lien avec ASE, mais là où je trouve qu'OSE, Old School Essential, est assez pingre en accompagnement de l'arbitre, là, Cairn, l'auteur, a réussi à synthétiser les conseils à la fois aux joueuses et à la fois à l'arbitre. Donc à chaque fois, ça tient sur une page. C'est des petits paragraphes. Donc on a les principes pour les joueuses, la présentation du jeu et les principes pour le gardien, il appelle ça, mais voilà, pour l'arbitre. Et vraiment, c'est des listes à puces très succinctes. Et tout de suite, ça nous permet de nous lancer dans ce type de proposition ludique. Là où, par exemple, moi, il y a quelques années maintenant, quand je me suis lancé dans le old school, sans aucune nostalgie, voilà. J'ai dû un petit peu aller chercher notamment des refs qu'a pu proposer Eric et d'autres à droite et à gauche sur internet. Donc c'est vrai que il y avait une démarche personnelle assez importante pour se lancer, et là du coup Cairn vraiment il abolit tout ça parce que en 3 pages il te dit voilà, tu vas jouer comme ça, les joueuses vont jouer comme ça et vous allez voir, c'est top. Et effectivement ça fonctionne bien parce que voilà, tout est condensé là-dessus. Et concernant le gameplay, je l'ai mené à plusieurs reprises lors de parties de découverte, d'initiation, alors pas forcément avec des non-rôlistes en club, hein, en physique, ce qui m'arrive très peu, mais voilà, ou à des personnes qui avaient jamais joué sur ce type de jeu de rôle, en tout cas un peu old school. Et en fait, je pose le jeu, je leur donne les fiches de perso, on crée les persos, je n'explique même pas les règles. En fait, c'est pas pour moi, tu peux te permettre de ne pas expliquer les règles, parce qu'en fait, le jeu, la création de personnages, tu commences par un nom, des antécédents et des traits de caractère que tu vas tirer aléatoirement. Donc la première chose dans laquelle tu t'imprègnes, c'est comment s'appelle son personnage, à quoi il va ressembler et comment il se comporte, en fait. Donc déjà, tu as les clés pour jouer. Et effectivement, après, bah, tu vas tirer tes caracs aléatoires, etc. Et tu vas mettre quelques chiffres, notamment des points de vie, de l'armure. Mais tout ça, je ne rentre pas dans les détails. Et on se lance, on discute. Et quand la mécanique vient s'inviter, je dis, bon là, ok, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il va peut-être falloir faire un jet de sauvegarde de force. Et là, j'explique la mécanique et les enjeux qu'il peut y avoir et les risques qu'il peut y avoir en cas d'échec et qu'est-ce qu'on établit si on réussit. Voilà. Et je trouve ça hyper... en fait, ça soulage tout le monde autour de la table, même les personnes qui peuvent ne pas être à l'aise avec des mécaniques lourdes, etc. Sont tout de suite dans le truc. Là où, par contre, j'ai eu des retours un peu négatifs là-dessus, c'est des personnes qui avaient des attentes autres, notamment avec des mécaniques plus complexes. Pas seulement des rôlistes aguerris, mais parfois des personnes qui aiment bien les jeux de plateau un peu plus costauds en termes de mécanique, ou tout simplement qui voyaient ça autrement. Donc c'est vrai que ça, l'aspect très light, ça peut dérouter certaines personnes, mais moi je trouve que ça fonctionne super bien. Concernant Cairn, je trouve que là-dessus, il joue vraiment sur tous les tableaux. Je ne vais pas dire que c'est la meilleure itération d'Into the Odd, mais il est quand même dans le haut du panier, parce que il fonctionne très bien, il est très simple. Et au niveau de la thématique qu'il propose, pareil, on est sur du donjon assez classique, mais plus dans un côté un peu exploration de forêt, féerique, plus proche du Seigneur des Anneaux que du Donjons & Dragons et héroïque, comme le soulignait Eric. Et du coup, quelque chose de plus sobre, en fait, et qui parlera peut-être à un peu plus de monde.
Mais tu as raison de dire que ce n'est pas la meilleure itération de Into the Odd, parce que la meilleure itération de Into the Odd, c'est Into the Odd.
C'est ça.
C'est juste, c'est le distillat parfait du donjonnage à l'ancienne. Il n'y a rien à enlever, tout ce qui est nécessaire, c'est juste un petit bijou.
Ouais. C'est pour ça qu'il y a autant d'itérations aussi. Hein.
Mais les ajouts qui ont été faits sur Cairn fonctionnent super bien. Hein. Les sorts, le fait que tu tires les traits de ton personnage, tes particularités au hasard. Donc, même si tu n'as pas d'idée, deux minutes après, tu as quatre mots sur une feuille de personnage et ça te donne tout de suite une direction. Que tu sois timide ou pas, ça te donne quand même une bonne idée de ce que tu vas jouer. Ça fonctionne super bien.
Ouais, j'ai une anecdote de partie là. Il y avait des gens d'une ville à côté qui étaient invités dans le club. Habituellement, ils faisaient du Polaris ou ce genre de jeu. Alors la version Excel, pas l'autre. Hein. Et le gars tombe sur apprenti d'alchimiste. Et en fait, il était un peu perdu et tout. Et en fait, il s'est rendu compte des possibilités du jeu parce que dans la vraie vie, il était préparateur en pharmacologie. Et là, ça a fait boum dans sa tête. Ah ouais, mais en fait, il y a juste marqué apprenti d'alchimiste. J'ai pas d'autres compétences, donc c'est bon, je peux me lâcher, quoi. Mais je suis fait, vas-y, lâche-toi. Dis-moi ce que tu peux faire avec telle plante. Enfin, c'était vraiment du bonheur, en fait.
Ouais, ça fait toujours plaisir quand tu vois que le moment où quelqu'un réalise que, mais je peux tout faire, je peux tout essayer. Ouais.
Ouais, je trouve qu'avec ce genre de proposition, du coup, ça déverrouille pas mal ça. Dans le sens où, rien que le fait de tirer les traits de caractère et les antécédents de ton personnage avant de tirer quoi que ce soit d'autre de mécanique, déjà c'est assez malin, mine de rien. C'est malin d'y avoir pensé et d'avoir fait avant, parce que finalement, à beaucoup de persos, tu commences à tirer tes 6 caracs habituels et du coup tu as ton perso qui se dessine par des chiffres plutôt que par des mots. Donc déjà c'est un peu plus enfermant, je trouve.
Ouais, et puis tu sais pas forcément ce que veulent dire des mots comme constitution ou sagesse. C'est pas forcément évident ce que ça veut dire d'avoir un gros ou un gros score ou un bas score devant des caractéristiques que tu ne maîtrises pas au départ.
Oui, c'est vrai que sagesse, c'est pas très... T'as intelligence et sagesse, c'est pas forcément...
Non, c'est...
Évident, quoi.
Voilà, c'est les caracs, on les garde par tradition. Et d'ailleurs, dans Into the Odd et dans Cairn, il n'y en a plus que 3.
Force, Dex, Volonté, ouais.
Mm. Ouais, ce qui simplifie pas mal le truc. Et puis, l'intelligence de ton personnage, c'est la tienne, puisque tu vas résoudre, tu vas résoudre des problèmes avec ton propre cerveau. On ne te demande pas un G pour résoudre des énigmes ou des...
Pour surmonter des obstacles.
Des casse-têtes.
Ouais.
Donc là, on est sur deux jeux avec MJ, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Classique dans le format...
Attends, le jeu de rôle sans MJ, c'est pas du jeu de rôle, en vrai, c'est...
Si. Toi, tu veux te faire frapper.
Non, mais il suffit de lui couper son micro. Hein. Allô, ma main, on n'entend plus, c'est dommage. Je dis ça...
Tout de suite, je vais passer pour le vieux de l'émission.
C'est pas ça, parce que je suis en vrai.
Tout à l'heure, je me suis retenue quand tu as dit du vrai jeu de rôle. J'ai retenu la question, c'est quoi? C'est quoi le vrai jeu de rôle?
Non, bon, vrai jeu de rôle,
c'est pas le thème de l'émission.
Si on savait, on ferait pas de podcast.
Le vrai jeu de rôle, je vais rentrer en mode troll. Le vrai jeu de rôle, c'est celui où il y a très peu de jeux de rôle. Celui où il n'y a pas beaucoup de roleplay. C'est quand même un peu bizarre, non? Excusez-moi.
Mais après, en vrai, ce genre de proposition, que ce soit OSO ou Kern ou Into the Odd, tu peux jouer solo, tu peux jouer sans arbitre, en fait, parce que souvent, tu embrasses l'aléatoire, tu te laisses porter par l'aléatoire, et finalement, tu peux mener une partie, enfin, en tout cas, jouer une partie qu'avec des tables aléatoires et te laisser porter par ce qui se passe. Donc, tu peux faire ça arbitre tournant ou sans arbitre, juste avec la conversation. Sincèrement, il ne faut pas grand-chose pour ça. Moi, je sais que, par exemple, ben, finalement, je me rends compte qu'au fil des années, ben, je n'aime pas trop jouer. Je ne suis pas tellement joueur. Ce que j'aime bien, c'est être arbitre. Je kiffe. Voilà. Et du coup, ça me va bien. Mais finalement, on pourrait aussi jouer sans, je pense, sans grande difficulté sur ce genre de jeu.
Et puis, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que tu parles d'aléatoire et ça me fait penser à cette grosse différence avec le D&D 5e édition ou les jeux qu'on voit en général sur les streams. Quand tu t'assieds derrière ton écran en tant qu'arbitre, tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer. T'es pas venu avec un scénario en trois actes, avec une surprise à la fin du deuxième et une fin que tu as déjà presque déjà écrite parce que tu sais, tu as déjà répété dans ta tête comment ça allait se passer, et avec des joueuses qui n'ont plus qu'à se mettre dans les bottes des acteurs de ta pièce de théâtre et qui n'ont finalement pas des tonnes de choix et qui... à qui ça plaira peut-être, mais il y en a aussi beaucoup qui risquent de se retrouver frustrés d'avoir des murs invisibles qui les empêchent d'essayer ce qu'ils ont envie de faire. En OSR, on a des bacs à sable plus que des scénarios, on a des situations avec des gens qui veulent des choses, hein, des gens qui ont des buts, des problèmes à résoudre, et on lâche les joueuses dedans. Elles vont pas forcément accepter la quête qu'on leur propose, peut-être même qu'elles vont s'allier avec les bandits dans l'idée de se faire un peu d'argent de poche pour enfin pouvoir s'équiper correctement. Et c'est tout le plaisir de voir une aventure se dérouler à ta table sans avoir l'histoire préécrite. Et des histoires, t'en auras, mais ce sera celle que tu raconteras après la partie.
Ouais, ouais, au final, moi, c'est ce que je kiffe le plus, et c'est très narratif. C'est vraiment... Mais du coup, c'est pas tellement centré sur le personnage, ça arrive sur le tard. Mais on se retrouve avec quelque chose de très narratif. Moi, je sors de session, je fais « Ah ouais, franchement, c'est impossible d'anticiper ça, quoi. » Et ça, j'avoue que je retrouve ça sur des jeux comme des jeux propulsés par l'Apocalypse ou des Bob. Je retrouve les mêmes sensations, en fait, les sensations que j'aime, en fait, de la surprise et de jouer pour voir ce qui va se passer, en fait.
Ok.
Bon, c'est pas une émission sur l'OSR, donc on va...
Ouais, on l'a déjà fait plusieurs fois.
On va donner la parole à Farfa qui va tempérer toutes nos ardeurs.
Effectivement, donc moi je vais partir sur une proposition vraiment différente, je pense, puisque moi je vais parler de Pour la Reine et de ses descendants. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est une famille de jeux, je vais dire, entièrement narratif. De mon point de vue. Il n'y a pas de dés, il n'y a pas de fiche de perso, il n'y a rien de tout ça. Alors, sur Radio Rollist, j'ai retrouvé qu'on a déjà parlé de Pour la Reine, qui est donc le jeu d'origine, dans l'émission 91 du 15 mai 2019, où Mathieu B. a donc présenté ce jeu. Donc, Pour la Reine et ses descendants, c'est quoi ? C'est un jeu sans MJ. Il n'y a pas de meneuse, il n'y a pas d'arbitre. Voilà, on est tous... joueurs et joueuses, joueuses. Au niveau de l'investissement de départ, Il y a des jeux qui sont édités qui coûtent environ 16 euros. Il y en a quelques-uns. Bah, il y a Pour la Reine, il y a Siphon et Dragon, je crois. Il y a Le Casse de Trop, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, c'est quand même, c'est un des plus récents, je crois. Et sinon, il y a le site For the Drama, fordrama.com, où là, il y a une possibilité de jouer en ligne, gratuitement, à toute une proposition de jeux différents. Je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'il doit y en avoir facilement une cinquantaine. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et dans ce cas-là, il faut juste une connexion Internet. Du coup, on peut jouer aussi bien en distanciel qu'en présentiel. Et au niveau investissement personnel pour prendre en main le jeu, il n'y a rien, en fait, pratiquement. Vous allez avoir des cartes. C'est les premières cartes qui vont vous expliquer les règles du jeu. Chacun son tour, on va tirer une carte qui vont arriver dans un ordre aléatoire. Et il faudra répondre à ce que demande la carte. C'est-à-dire que la carte va vous poser des questions, va vous proposer des actions et vous demander ce que vous faites. Et donc voilà, donc on voit qu'au niveau de la mécanique, c'est simplissime. Donc quand on n'a jamais fait, qu'on est un petit peu justement intimidé par les gros livres, Donjons et Dragons, etc., les jeux où il y a plein de livres, il y a plein de règles et tout, là c'est vraiment simplissime. Moi, ce que j'aime bien, c'est que il y en a pour tous les goûts. On peut aussi bien jouer en famille avec des enfants, avec des jeux comme Le Chat de la Princesse a disparu, Chasseuse de cartes, qui est inspiré de l'univers de Sakura. Il y a des jeux beaucoup plus poétiques, comme Petit Dieu. Il y a des jeux beaucoup plus rigolos, comme Donjons et Siphons. Et il y en a des plus nostalgiques, comme À la mémoire d'eux, etc. Donc, il y a plein d'ambiances différentes, il y a plein de possibilités différentes. Voilà, quand on n'a jamais joué, ou même des gens qui sont rôlistes et qui juste ont envie de se faire une soirée, mais qui n'ont pas pu préparer, ou le ou la meneureuse a un souci de dernière minute, ne peut pas être là, et ben ça s'improvise très très facilement. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez chouette. Du coup, forcément, au niveau accompagnement, comme il n'y a pas de meneuse, au niveau accompagnement des joueuses, c'est vraiment des jeux qui vous prennent par la main, qui vous disent tout. Et c'est des jeux qui intègrent aussi, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais c'est des jeux qui intègrent dans les cartes qui présentent les règles la sécurité émotionnelle, puisqu'il y a une carte qui vous précise que on a la possibilité de la carte X. Donc sur le jeu For the Drama, il y a un bouton X. Et quand une carte met quelqu'un mal à l'aise, on peut la supprimer du jeu. On appuie sur le X et on zappe cette carte. Si on n'est pas inspiré par une carte, on peut la passer à son voisin ou sa voisine. Et lui-même peut... et elle peut faire le tour de la table, cette carte. Et si elle inspire personne, pareil, on la zappe. Donc voilà. Au niveau temps de partie, c'est très modulable, puisque on met le nombre de cartes qu'on veut. On n'est pas obligé de tout mettre. Le site propose entre soit 10, soit 20, soit 30 cartes. Et la seule chose qui peut être un peu perturbant, je pense pas forcément pour des gens qui s'initient, qui connaissent pas du tout, parce qu'eux, ils n'ont pas de préconçu, c'est le fait que, par contre, il y a une carte finale. Il y a une question finale qui est prédéfinie. On sait à l'avance comment le jeu se termine. Pour la reine, à la fin, on sait que va y avoir une attaque. Et la question finale, c'est la reine est attaquée. Est-ce que vous la défendez ou est-ce que vous la trahissez? Donc voilà. Et j'ai eu une fois un joueur qui a été un peu frustré par le fait que la fin était déjà actée, en fait. Et qu'il ne pouvait pas... faire un peu comme il voulait à la fin. Si vraiment il y a des gens qui aiment bien le principe de jeu comme ça, avec des cartes qui posent des questions, mais que la question finale les gêne, les gens peuvent toujours virer la question finale. Hein. Mais ça change quand même pas mal l'ambiance du jeu.
Voilà, c'est le but un peu, ouais.
Après, ça va dépendre. Pour certains jeux, ça sera peut-être moins prégnant que d'autres, mais il y en a quand c'est des jeux un peu nostalgiques qui jouent justement sur le fait que tu ne peux pas échapper à certaines choses et tout ça. Bah, si tu vires la question finale et que du coup tu y échappes, tu perds un peu le sel du jeu, quoi. Donc voilà.
J'ai été voir sur le site, j'ai compté, il y en a 83 des jeux en français.
Okay. J'ai pas le courage de les compter.
Ça fait longtemps que j'y étais pas allé.
J'ai pas joué au 84.
Ouais, moi non plus.
Ah, et sur le site, il y a des jeux qui sont disponibles aussi en PDF. Donc voilà, si on n'a pas beaucoup de budget, il y a toujours cette possibilité-là. Souvent, il y a un lien vers la page itch.io de l'auteur ou de l'autrice. Donc si vous pouvez, bah, c'est toujours cool de les soutenir quand même, parce que c'est du boulot de préparer ces jeux-là. Mais voilà.
Et aussi, on peut ajouter qu'on peut en créer un facilement sur le site.
Oui, il y a d'ailleurs sur le site un onglet qui est prévu pour expliquer comment on peut créer et proposer un jeu. Il y a un onglet « Créer un jeu » pour proposer des jeux pour le site For the Drama. Donc For the Queen, pour la petite historique, c'est donc un jeu qui a été créé par Alex Roberts et qui a été édité par Evil Hat Production, mon magnifique accent. Et donc il y a une licence qui permet de créer des jeux basés sur la mécanique de For the Queen à partir du moment où on dit que c'est un jeu descendant de For the Queen. Alors par contre, on n'a pas de personnage prédéfini au départ. Ça va se, enfin, ça dépend des jeux. Il y en a qui te demandent effectivement de dire qui tu es, etc. Où il y a différents rôles à se répartir. Mais par exemple, je crois que c'est le chat a disparu auquel j'ai joué. Tu sais juste que tu es un ami de la princesse parce qu'elle te fait confiance pour retrouver son chat justement. Et c'est toi qui décides. Bah moi, je suis un apprenti soldat de la garde. Ah bah moi, je suis l'apprenti du magicien du château. Ah bah moi, je suis juste, je travaille aux cuisines, etc. Et les personnages et les liens qu'ils ont entre eux se construisent au fur et à mesure de la partie avec les cartes.
Du coup, ça laisse la possibilité aussi d'intégrer dans une campagne au début, par exemple, pour définir les persos ou au milieu d'une campagne. On peut créer ces cartes pour un autre jeu et faire une séance de fort de drama pour préciser quelque chose dans la campagne ou parce que tous les joueurs ne sont pas là.
Même pour définir les personnages.
Oui, voilà.
Expliquer aussi peut-être pourquoi ce groupe de persos est ensemble, comment ils se sont rencontrés, pourquoi ils sont restés ensemble, qu'est-ce qu'ils ont traversé comme épreuve avant qu'on commence la campagne, ce genre de choses. C'est vrai que ça peut être une utilisation de cette mécanique-là aussi.
Je pense aussi que ça peut servir de jeu de chauffe avant un GN ou avant ce genre de choses aussi. Alors, il faut avoir un peu de temps, hein, mais c'est les jeux comme ça, enfin, t'arrives sur un GN ou sur une soirée enquête, il faut prévoir des jeux de chauffe pour que les gens commencent à se parler et tout. Je pense que ça peut être un bon truc d'introduction.
Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, pour briser la glace.
Mmh. Oui, voilà. Surtout que tu peux régler le temps que ça dure. T'es pas obligé de le faire durer 4 heures, donc c'est bon, quoi.
Mmh. Alors, faut pas que tes gens soient sur les rotules avant de commencer.
Ouais, c'est ça,
c'est dommage.
Mais là, dans le cadre vraiment de l'initiation et tout ça, bah, moi, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, c'est extrêmement simple à prendre en main, même quand on n'a jamais fait de jeu de rôle, il n'y a rien à préparer, c'est très très simple. Par contre, oui, c'est entièrement narratif, bah, y a les questions qui aident au roleplay, et par contre, quelqu'un qui arrive avec une attente de « ah bah j'ai vu des gens, ou j'ai regardé Critical Role, c'est super chouette et tout ça, et tout », bah, ces gens-là vont peut-être pas être hyper emballés, parce que bah, ils ont vu des gens qui lançaient des dés, qui jouaient avec des maps, etc., là, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas, par contre.
Ouais, donc, je pense que c'est pas le même genre de... Mm-mm. C'est pas pour les mêmes personnes que les deux
voilà,
précédents.
Voilà, ça sera pas le même public cible.
Ouais.
Enfin, on vient pas pour jouer à la même chose. Là, il n'y aura pas... Enfin, il n'y a pas forcément de place à l'aléatoire non plus. Je veux dire, le seul aléatoire qu'on a, ça va être l'ordre des cartes. Donc on peut jouer 10 parties pour la reine, ça sera jamais la même chose, ça sera jamais la même histoire, parce qu'on va pas forcément créer les mêmes personnages, parce que les cartes ne vont pas sortir dans le même ordre, ou ça va pas être les mêmes cartes parce qu'on va pas toutes les mettre, et que du coup, l'enchaînement des événements ne seront pas les mêmes, et donc ça va forcément donner des histoires différentes. Donc c'est un éternel renouvellement.
Tu joues avec des personnes différentes souvent, ou c'est pas les mêmes personnes qui répondent aux mêmes questions, donc tu vas te retrouver avec des choses qui vont partir complètement différemment.
Voilà, c'est ouais. Ça, ouais.
Et la durée moyenne d'une partie
C'est pareil, c'est modulable, et ça dépend aussi de à quel point on est à l'aise avec le roleplay. C'est-à-dire que si on répond très rapidement à la carte, avec 10 cartes, en 3 quarts d'heure, tu as fini ta partie. Hein. Si tu es comme moi capable de broder des tartines sur une carte, avec 10 cartes, tu fais 2 heures de jeu. Donc ça dépend un peu des groupes. Des groupes qui s'initient, sur le site, ils disent pour 10 cartes, c'est un peu moins d'une heure. Entre 10 et 20 cartes, c'est entre 1 et 2 heures. Et 30 cartes, c'est plus de 2 heures de jeu. Mais ça dépend vraiment de à quel point on s'empare des questions. Sachant que j'ai dit c'est celui ou celle qui tire la carte qui doit répondre à la question. Mais les autres, après, peuvent réagir à ce qui s'est passé. Ah oui, tu fais ça parce qu'effectivement, dans notre passé, on a fait ça. Ou tu fais ça, et du coup, moi, je te vois faire, et j'ai telle réaction, etc. quoi. Donc, une carte peut très bien durer 10 minutes.
Et en plus, comme tu l'as dit, on peut moduler, c'est-à-dire que si finalement on a passé beaucoup de temps sur les premières cartes et qu'il y a quelqu'un qui doit choper le dernier métro à minuit et qu'il est presque minuit, on peut dire, si tout le monde est OK, on skip toutes les autres cartes et on va directement à la carte finale. Et on fait la conclusion. Ça, c'est bien aussi, c'est qu'on peut rajouter ou enlever des cartes, même si on a défini en avance qu'on en mettait 10, en fait. Il n'y a rien qui nous empêche d'en enlever si c'est trop long.
Voilà, même sur le site, il suffit de passer les cartes et on finit par arriver à la carte finale. Donc voilà. Sur le site, rajouter des cartes, ça va être compliqué. Mais
je dirais qu'il faut être à l'aise avec l'idée de raconter des trucs en public. Mais que par contre, si on est impressionné par les règles compliquées, ça c'est. Au contraire, c'est un jeu facile, quoi.
Si on a envie juste de raconter une histoire, là, on va avoir la possibilité avec, en plus, des questions qui permettent d'orienter un petit peu. Si on n'a pas d'idée, la question est là pour te guider de, il se passe ça, comment tu réagis. Parfois, c'est des questions par rapport aux autres personnages. C'est, par exemple, dans le cas d'Otro, tu vas avoir un membre du groupe t'a trahi. Qui était-ce et pourquoi il ou elle a fait ça? Donc ça amène aussi du lien. Ça va dépendre aussi des différents jeux. J'ai pas joué aux plus de 80 jeux proposés par le site, mais
souvent c'est ça quand même. Souvent les questions elles sont là pour te faire créer des liens avec les autres joueurs. Ça va être il y a un des personnages à qui t'as caché quelque chose. Qu'est-ce que c'était et à qui? Ce genre de truc, quoi.
Ou tu es secrètement amoureux d'un personnage, lequel, pourquoi, etc. Donc oui, c'est vraiment orienté roleplay, orienté lien entre les personnages, les émotions, etc. machin. Donc moi, je suis très fan de ce genre de choses. Et puis, y a tellement de jeux proposés sur le site que y a plein d'ambiances. Et on peut y jouer avec des enfants, y compris des enfants très jeunes. On leur lit les questions. Les enfants sont très à l'aise. Eux, ils ont en général, pas de problème, parce que se raconter, s'inventer des histoires, c'est quelque chose qu'ils font assez naturellement. Je crois que ça, c'est quelque chose que je dis à peu près dans toutes les émissions où je suis.
Oui.
C'est bon à rappeler, je pense.
J'aime jouer avec les enfants au jeu de rôle.
Oui, c'est cool. Fun.
Ils se mettent pas de limites, en plus. C'est très, très drôle.
Et ils vont beaucoup plus vite que nous.
Oui.
En général.
Ouais, j'avoue que moi, quand j'ai... C'est sorti For the Queen, ce qui m'a frappé, c'est le format et la mécanique, quoi. Je veux dire, la mécanique, elle est tellement astucieuse. Tout le monde, a priori, sait répondre à une question. Donc, partant de là, tu peux jouer à peu près avec tout le monde. Voilà, après, le seul frein qu'il peut y avoir, celui que vous avez évoqué, notamment avec des personnes qui s'attendent à autre chose. On est toujours dans les attentes. Hein. Donc, c'est toujours pareil, en fait. Hein, quand on propose des parties à des gens, c'est bien de cerner les attentes du groupe. Avant de peut-être définir le jeu, et pas le contraire, de dire « Bon, mais ce soir, on joue à Donjons & Dragons, hein, ok ?» Voilà, et du coup, si tout le monde est OK avec les attentes, tout le monde ressort avec moins de frustration. Donc, For the Queen et les dérivés, ouais, pour ça, c'est quand même assez malin. Je ne sais, sais pas l'ampleur qu'a eu le jeu commercialement. Après, on ne doit pas toujours courir après le succès, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ouais, quand c'est sorti en son temps, j'ai trouvé ça assez fabuleux, quoi.
Ouais, tout à fait d'accord. Et puis, rien ne dit que tu ne vas pas pouvoir faire une partie de ça avec des gens qui veulent jouer à Donjons et Dragons après.
Oui.
Tu peux passer d'un truc à l'autre pour aussi faire... Tu fais tes trois premiers samedis soirs de ta campagne de jeu de rôle, mais en fait, tu vas faire des tests pour voir ce qui va plaire le plus au groupe, pourquoi pas. L'énorme avantage d'un jeu comme ça, c'est, à mon avis, qu'il n'y a pas la grosse pression du MJ.
Oui.
Combien de personnes, tu vois, qui viennent sur Internet en disant « Moi, mes copains, ils ont dit qu'ils voulaient jouer à Donjons et Dragons. » Et j'ai dit que je devais le faire, mais maintenant, je ne me le sens plus trop.
Ouais, c'est clair.
Quelles que soient les règles, il y a l'intimidation, la pression de te dire qu'il va falloir que tu sois Matt Mercer dès ton premier quart d'heure. Bon courage. Avec un truc comme ça, tout le monde se met dans le bain en même temps et
voilà.
Sur un pied d'égalité.
Et c'est vrai que comme on est là pour parler initiation, bah on voit parfois des groupes de gens qui ont envie, mais personne ne se sent effectivement les épaules de prendre en charge le rôle de meneuse. Et bah là, on l'a pas. Donc, le problème ne se pose pas. Et puis, pour des gens qui n'ont pas d'habitude rôlistique, qui n'ont jamais fait de roleplay, le fait d'avoir les questions comme ça qui guident, ça peut être très rassurant.
Oui.
Parce que bah, si t'es pas inspiré ou si t'as peur de pas être inspiré, de pas savoir quoi dire, quoi faire, t'as la question qui est là, quoi.
Oui, au pire, tu réponds. On peut pas répondre par oui ou par non, c'est quand même des questions qui nécessitent un tout petit peu de développement. Mais si on te dit qui à la table t'a trahi, dans quelles circonstances, tu peux répondre quand même relativement vite et puis t'es pas obligé de développer, quoi.
Mais ça entraîne l'imagination, quoi.
Oui.
Ça montre aux gens que, bah si, en fait, ils sont capables. Je pense aussi que parfois, il y a une part d'appréhension et que on est tellement dans l'appréhension que bah, ça occupe un peu tout le cerveau. Et là, avec un jeu comme ça, ça peut montrer aux gens que, bah, si, ils ont les capacités à justement improviser, à broder autour de questions, plus que ce qu'ils ne pensaient, peut-être. Je parle pour des gens qui n'ont vraiment jamais fait, quoi.
Les premières réponses seront peut-être timide, et puis au fil de la partie,
voilà,
ça va se décanter. Et la question finale arrive, c'est « Ah, déjà, mince, mais c'est frustrant !»
Ouais. Ouais.
Moi, je décris ça comme le réflexe du gendarme et des voleurs, que tout le monde... La capacité à faire semblant que tout le monde a eu quand il était gamin, et que 99,9% des adultes ont toujours, c'est juste qu'ils ne s'en servent pas.
Voilà.
Et il y a un déclic qui se fait très très vite, si tu... Si tu mets des gens dans la bonne situation et en confiance, tout de suite.
Voilà, on retrouve l'histoire de notre âme d'enfant.
Ouais, ouais, c'est complètement.
Moi, elle n'est jamais bien loin, hein. Je vous préviens.
Oui, moi, je n'ai jamais perdu, moi.
C'est pour ça qu'on est rôliste. Hein.
Bah oui. Oui. Donc voilà, ma présentation de...
Oui.
Ouais, je pense recommandé par tout le monde. Hein.
On est ah
ouais, il est pour dire que...
Ouais.
Même si ce que tu veux, c'est du combat tactique, essaye quand même pour la reine, parce que...
Bah pour la reine ou un de ses descendants, parce qu'il y a tellement de propositions. Enfin, je vois, là, il y en a un, c'est pour le CDI. Où en gros, tu es dans un CDI et tu incarnes un prof doc, quoi. Et vous faites partie d'un groupe de travail local composé de profs doc réunis lors d'une réunion. Alors ça, je pense que c'est assez de niche quand même comme thème, mais ça, je pense que ça peut être extrêmement fun. Je ne l'ai pas testé encore, mais ça peut être extrêmement fun.
Est-ce que tu sais s'il a été écrit pendant une réunion de profs doc?
Aucune idée.
Quelqu'un qui s'emmerdait pendant...
Comme il y en a quand même 85, je peux parler de mes trois chouchous du site. Pour le côté un peu plus délire et assez mignon et du coup tout à fait kids friendly, il y a For the Cake, où donc on va incarner des petits bonhommes de pain d'épices qui sont animés par la magie de Noël et qui veulent survivre à Noël, mais qui sont malheureusement de succulents héros. Donc,
oui,
qui doivent survivre face aux membres de la famille, face aux chiens, face aux chats, etc., qui veulent les boulotter. Et sachant qu'à la fin, la question finale, c'est que Noël arrive, c'est le soir de Noël, et on sent que la magie s'amenuise dans la maison. Et est-ce qu'on arrive à survivre ? Voilà. On a un corps qui est couvert de friandises, donc les bonbons boules de gomme, les paillettes, les machins comme ça, et qui peuvent éventuellement donner des pouvoirs. Donc, pour ceux qui ont vu Shrek, si vous voyez le petit bonhomme de pain d'épices dans Shrek, c'est totalement ça.
Mmh. Voilà. Friandises, bonbons, noix, sucreries, qui sont autant de super pouvoirs.
Voilà.
Ouais.
Et il y a aussi le chat a disparu, auquel j'ai joué quelques fois. La présentation est très courte. En gros, le chat de la princesse a disparu dans la forêt magique. La princesse t'a choisi, toi et tes amis, pour le retrouver, car elle sait que vous êtes courageux et elle a confiance en vous, etc. Et donc, c'est très, très drôle parce que on part vraiment, on invente la forêt. Il y a des cartes, parfois, voilà, tu te retrouves devant la maison de la sorcière, qu'est-ce qui se passe et tout. Et on peut partir dans des délires extrêmement impressionnants. Et sachant qu'à la fin, tu retrouves le chat. Et tu choisis si tu le ramènes ou pas à la princesse. Donc selon ce qui s'est passé, peut-être que le chat n'a pas forcément envie, lui, de rentrer. Ou peut-être que toi, finalement, t'as pas non plus envie de le rendre, ou si, ou voilà. Et puis l'illustration est très choupie, parce que c'est un petit chat licorne avec une corne et une espèce de queue de cheval arc-en-ciel. Donc ça, c'est pour les jeux plus rigolos, délire et kids-friendly. Et j'en ai un troisième qui est vraiment un de mes préférés, qui s'appelle Petit Dieu, qui est beaucoup plus justement poétique et un peu mélancolique, puisqu'on va jouer des petits dieux, des petits esprits qui vivent depuis des temps immémoriaux près des humains, qui habitent dans un lieu mystique chargé d'histoire, un lieu où les humains viennent ou venaient prier. Et on sent nos pouvoirs diminuer, on sent qu'on n'entend plus les prières des humains, ou de moins en moins, et que en fait, on va vers notre disparition. Donc la dernière carte, c'est, voilà, on sent qu'on va disparaître, et comment on choisit cette fin pour notre personnage. Donc on ne peut pas sauver nos personnages à la fin. C'est prévu dans le jeu. Et donc, je l'aime beaucoup parce qu'il est très, très poétique. Je trouve qu'il est... Enfin, moi, je le rapproche vraiment. Pour moi, c'est vraiment les petits Kodama comme on voit dans Princesse Mononoke. Les petits esprits, il y a un peu de ça. Quoi.
On doit bien pleurer à la fin, non ?
Ah, bah...
Ça dépend comment on joue.
Ça dépend. Oui. Parfois, tu disparaisses pas forcément. Tu pars vers autre chose, vers de l'inconnu. Tu sais pas ce qui t'attend. Juste, tu quittes cet endroit, ouais. Tu ne sais pas, est-ce que tu vas vers ta fin, est-ce que tu vas pour un passage... En gros, tu vas vers l'au-delà, et qu'est-ce qui se trouve derrière le voile, tu ne sais pas.
D'accord.
Mais oui, c'est un peu nostalgique. Ouais.
Mais après, oui, c'est quand même... oui, c'est quand même mélancolique, nostalgique, et tu ne peux pas éviter ce passage au-delà du voile, quoi, je vais dire, de façon poétique. Le chat a disparu, c'est Mathieu B. Force the Cake, c'est Gobelin Nounours. Et il y a juste Petit Dieu, ça, je savais que c'était Milouche et j'ai juste oublié d'en parler. Voilà. Et du coup, Mist ?
Moi, je vais parler de Psy Run, qui est un jeu qui est publié dans sa version française, en tout cas par Electric Goat, et de Megui Baker. Donc, je ne sais pas trop prononcer son prénom, je pense. Donc, qui est l'épouse de Vincent Baker, qui est aussi connu. En termes de prix, c'est pas très cher. Je crois que le PDF, il est à 7 euros et le livre physique, il est à 15 euros. C'est un jeu qui est un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'il a des mécaniques un peu traditionnelles. Il faut un MJ, mais avec quand même une mécanique assez légère, quoi. On joue des fugitifs qui ont des pouvoirs psychiques qu'on choisit. Donc, il n'y a pas une liste... dans laquelle choisir les pouvoirs. Il y a des propositions dans le livre, il me semble, mais on peut choisir n'importe quel pouvoir qui nous fait plaisir. On n'est pas obligé de le définir avec ses limites. Enfin, c'est pas très précis. On peut écrire juste « je maîtrise l'eau », par exemple. Et on est poursuivi par des poursuivants dont on n'a pas forcément plus d'informations que ça. En ce qui concerne les mécaniques, c'est assez rapide à créer. On a une feuille de personnage sur laquelle on marque le nom du personnage, s'il s'en rappelle, parce que tous les personnages sont amnésiques. On marque son pouvoir, à quoi je ressemble quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois, et une liste de questions qui vont amener du jeu. Donc, par exemple, tiens, pourquoi j'ai cette mallette et quel est le code pour l'ouvrir, ou que représentent les tatouages que j'ai sur le bras, ce genre de questions-là. Et le but, ça va être d'arriver à répondre aux questions pour retrouver son passé. Tout ça sans se faire attraper par les poursuivants. Donc ça demande de la part de la personne qui fait MJ, ça ne demande pas tellement de préparation, il suffit d'avoir lu les règles. On n'a pas un scénario à l'avance. Les personnages sont transportés quelque part, il y a un crash du véhicule et donc ils sont en fuite après ça. Il y a une piste d'avancée des personnages sur la table avec des post-it, donc ça commence par un crash. Et donc à chaque fois qu'on est dans un nouveau lieu, on rajoute un post-it pour dire on est éloigné du lieu du crash. Donc là on est au centre commercial, on rajoute un post-it centre commercial. Et les poursuivants, ils sont aussi quelque part sur la piste. Donc ça nécessite aussi à peu près 6 dés à 6 faces. Et quand on va vouloir faire des actions, on lance les dés et on les répartit sur des cases différentes en fonction, ce qui va avoir des résultats différents. Donc par exemple, il va y avoir une case objectif, donc objectif de l'action, une case souvenir, une poursuite, une pouvoir si on utilise son pouvoir, blessure, capture, etc. Donc quand on lance les dés, on regarde ce qu'ils ont fait comme résultat et on peut dire « Ah ben j'ai fait un 6, est-ce que j'ai envie de le mettre sur les souvenirs, comme ça je vais me rappeler de quelque chose ?» Ou je le garde plutôt pour l'objectif, pour être sûr de réussir mon objectif. Mais du coup, dans souvenir, je vais avoir un truc moins bien, donc je ne vais pas avoir un souvenir tout de suite, etc., etc. Tiens, les poursuivants sont loin, donc tant pis, je vais mettre le 1 dans les poursuivants. Ils se rapprochent de deux étapes, mais ce n'est pas très grave parce qu'ils sont loin. Donc ça permet de répartir, selon ce qu'on veut faire, répartir ses jets. Et en plus, selon les résultats, c'est potentiellement le joueur qui décrit le résultat, ou le MJ, ou les autres joueurs. Donc ça fait aussi une assez bonne répartition de la parole avec ce système. Donc voilà, c'est assez facile à prendre en main. C'est du fantastique contemporain, donc ça se passe dans notre monde, mis à part qu'il y a des pouvoirs psy, donc tout le monde est capable de se projeter, ça ne demande pas de connaître le Seigneur des Anneaux ou d'être capable de se projeter dans un univers vraiment différent. Tout le monde a vu... une fois l'X-Men ou je sais pas, quelque chose dans ce genre-là, quoi. Donc, c'est pas très intimidant et je pense que c'est un bon jeu d'introduction pour des gens qui ont la curiosité de jouer, de dire « Ah tiens, j'ai entendu vaguement parler de jeux de rôle », mais qui n'ont pas d'attente préconçue, par exemple, et qui n'ont pas forcément envie, enfin, qui vont pas forcément derrière rejouer à plein de jeux. C'est juste une introduction. On fait une partie, il n'y a pas de campagne, et puis... Puis ça leur donne une idée de ce que ça peut être, quoi.
Voilà, voilà. C'est vrai que c'est un truc qui peut aussi faire peur aux gens quand tu dis on va jouer à Donjons et Dragons, t'inquiète pas, c'est une campagne en 5e édition, dans un an et demi, maximum, on a fini, quoi.
Clairement. Ouais, je suis en train de parcourir le livre, bon, j'y ai jamais joué, hein. Je connais de réputation dedans. Ça a l'air hyper didactique en fait, avec cette espèce de dialogue là où t'as la personne qui pose des questions et la meneuse qui répond. Ça a l'air bien fichu en termes de, comment on dit, de transmission.
Oui, moi j'ai jamais maîtrisé ce jeu, mais je sais que, enfin, j'y avais joué avec mon ex qui faisait le MJ et à des collègues à moi qui avaient la curiosité de dire ah tiens, jeu de rôle, jamais essayé machin. Et qui n'avaient pas d'idées préconçues, qui n'étaient pas forcément des gros geeks, qui n'étaient pas forcément des gros joueurs de jeux de plateau ni de jeux vidéo. Enfin, un peu, mais pas plus que ça. Et du coup, ça demande très peu de bagages de références culturelles ou de bagages de jeux de plateau compliqués, quoi. C'est un bon compromis entre plein de choses qui permettent de... C'est pas très intimidant, je pense, comme jeu. Pour ça que je pense que c'est un bon jeu d'introduction.
Mais j'ai joué qu'une fois et je me souviens avoir eu des moments de tension, mais comme rarement en jeu de rôle, juste parce que tu te retrouves avec ces dés et tu fais « Non, mais je peux pas tout faire, c'est pas possible qu'il nous rattrape, sinon ça va mal se finir. » mais quand même, je ne peux pas faire exploser le centre commercial parce qu'il y a tout le monde qui va mourir. C'est vraiment ce côté très X-Men, très ado des X-Men, complètement dépassé par ses pouvoirs qui ne peut pas tout gérer et ça ne va pas forcément bien se passer. Pas forcément un jeu qui finit bien d'ailleurs.
Non, il finit pas. En général, il finit pas bien pour tous les persos, en tout cas, parce que il y a un. Alors, j'ai reparcouru vite fait le livre, mais ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Mais il y a un épilogue et selon où le personnage en est, je crois qu'on termine le jeu quand un des personnages a complété ses questions, quelque chose comme ça. Sachant que les persos peuvent se séparer et ils peuvent être capturés et ou disparaître aussi. Donc ça peut très mal finir pour un personnage. Quand il y a de la capture, il y a des règles spécifiques. Je crois que ça ne veut pas dire que le jeu est fini pour le personnage, par contre. Mais... Et à la fin, il y a un épilogue et chaque personne, en fonction de ses possibilités, en fonction d'à quel point son personnage s'en est bien sorti, a avancé et tout, dans ses objectifs, on va raconter l'épilogue de son personnage. Donc ça ne finit pas bien pour tous les persos, en tout cas, en général.
Mais ça colle avec la fiction qu'on raconte. Ouais. Donc.
Et on a le pouvoir de raconter la fin de son propre personnage. C'est pas juste, t'as fait un mauvais jet, tu meurs bêtement.
Ouais.
Tu sais quand même toi qui choisis comment l'épilogue, quoi. Ok, ça va peut-être pas très bien terminer, mais c'est toi qui choisis comment ça va terminer. Voilà, voilà.
Ouais, c'est une très chouette option.
Ouais, et puis le matériel est assez bien fait. La petite feuille où on répartit les dés, il y a pouvoir, blessure, capture, disparition, et on peut replier certains des petits onglets pour si on est capturé ou pas. Enfin, c'est fait pour que ce soit facile visuellement de se repérer, quoi. On n'est pas obligé de se reposer sur une seule personne qui connaît les règles. On a les petits récaps. C'est très vite fait de se dire, ah ben, qu'est-ce que je fais si de 1 à 3 sur le souvenir, j'ai aucun souvenir. De 4 à 5, on se souvient de quelque chose et les autres joueurs ont la parole. Donc ben, si je le mets là, je sais exactement ce qui va se passer. Je peux faire ma petite stratégie sans me reposer sur moi, connaître les règles ou demander tout le temps au MJ de me rappeler les règles, quoi. Je
trouve ça bien. Avec des options et des exceptions et des calculs à faire. Là, c'est vraiment pas le cas.
Ouais, vraiment pas, oui. Moi, je me rappelle jamais des règles, donc je suis assez relou pour les. En tant que joueuse, je suis assez relou pour les MJ. Donc ça me permet d'être autonome sans embêter tout le monde, quoi.
C'est vrai que la remarque que tu faisais, Eric, sur la durée des parties ou des campagnes, on l'a pas forcément mis en avant dans le cahier des charges, mais clairement, si vous voulez débuter, initier, etc., enfin, ne proposez pas des parties, des campagnes d'un an et demi ou de plusieurs mois ou même plusieurs semaines, parce que. Enfin, c'est quasi sûr que ça sera
ça
à l'échec.
Ça peut être impressionnant,
quoi.
Oui.
Ouais, il vaut mieux quand commencer petit. Mais ce donjon, il vous a plu. On sort du donjon la prochaine fois et puis on verra. Voilà, ça évite les déconvenus, les déceptions et les dissonances en termes d'attente, quoi.
Mais c'est vrai, je pense que c'est compliqué de directement proposer une campagne sur ne serait-ce qu'une dizaine de séances à des gens qui ne savent pas encore en fait si ça va leur plaire hein, et à qui tu demandes de s'engager comme ça pour aussi longtemps. On peut se dire, moi, je n'ai pas forcément envie de m'engager dans ça parce que si jamais ça ne me plaît pas, je fais quoi ? Donc, commencer par des one-shots. Ça me paraît mieux.
Et je trouve que c'est un peu le piège des jeux à meneurs dans lesquels peuvent tomber les débutants, arbitres et autres. Je pense qu'on est pas mal à l'avoir vécu. Ça fait partie de l'investissement personnel. Voilà, tu te tapes le triptyque D&D, tu as envie de jouer, tu prépares ta campagne, tu trouves du monde. Toi, tu t'investis beaucoup et du coup, tu projettes tes attentes dans les autres et... Parfois ça matche pas, quoi, et du coup ça peut être très frustrant et très ça peut calmer, du coup tu dis mince, bon, ça marche pas et tu te relances pas. Donc vraiment faut commencer petit, quoi.
Oui, tout à fait. Alors là, quand même, ce jeu là il est précisé qu'il faut quand même bien 4-5 heures pour une partie. Mais par contre, il y a une note vers la dernière page, comment faire par exemple en convention si vous voulez faire une partie de 3 heures. Il y a des on pose moins de questions, par exemple. Enfin, il y a une partie qui explique comment faire des parties plus courtes, quoi.
Ok.
Ah, je me souvenais pas que c'était un jeu aussi long.
Bah, faut quand même avoir une après-midi, quoi. C'est pas ouais. pour la reine, mais c'est bon. On peut quand même prévoir 3 heures et se dire que c'est ok, quoi.
Tout à l'heure, je parlais de jouer avec des enfants. Bah, ça va dépendre des enfants et de leur âge et de leur capacité à rester concentrés sur un jeu et à quel point ils rentrent dans le jeu. S'ils sont accrochés par le jeu, etc., en général, ils vont pouvoir rester plus longtemps. Mais c'est sûr que des parties de 3-4 heures avec des mômes, ça va être compliqué, quoi.
Ouais.
Et même des adultes, parfois, bah, si on est un peu fatigué ou quoi, ils vont peut-être se dire « Moi, je me sens pas capable de rester concentré comme ça sur autant de temps, quoi. »
Après, ce jeu, pour le coup, on peut quand même le faire en plusieurs fois. C'est même précisé dans le livre. Tu vois, il faut prévoir 5 heures, mais tu peux le faire en 2 séances. C'est pas gênant.
Ouais, ça, je pense que ça fait moins peur.
Oui.
Oui, voilà.
Moi, 4 heures, c'est ma limite, je pense, de concentration.
Moi, j'ai déjà fait plus, mais je garantis pas la qualité des décisions prises en RP passer
oui,
un certain
ça.
Temps.
Ah, mais moi, je peux faire plus, mais je vais commencer à être un peu dissipée, quoi.
Ouais, et puis c'est même pour des débutants ou des gens qui ont jamais joué, le fait que le jeu de rôle, c'est un peu un jeu infini. Où il n'y a pas de gagnant, enfin tous ces trucs-là qu'on répète depuis 50 ans, c'est assez mythique. Quand tu fais jouer un jeu différent, soit un jeu qui va pas forcément bien se finir pour tout le monde, soit un jeu qui a vraiment une fin dramatique faite pour générer des émotions, il faut juste que les gens soient bien prévenus.
Là, on en revient aux attentes.
Voilà.
L'importance de la session zéro quand même.
Oui.
Même sans dire qu'on va faire une session zéro pour la reine, mais voilà, au début ou en amont du jeu, bien expliquer le principe, quoi.
Le contrat social.
Quelque chose à ajouter ?
Là comme ça, non. On avait dit qu'on ferait peut-être un petit tour pour parler de nos.
Ah oui, exact.
Nos chouchous.
Mais ouais, en gros, c'est parler des choses qui nous ont plu, qui peuvent. Se rapporter au jeu de rôle ou nous inspirer en jeu de rôle, mais qui ne sont pas du JDR, mais
qui se lance.
Alors, des coups de cœur actuellement, en truc récent. Alors, il y a un film, je ne sais pas si on peut dire qu'il est récent, c'est le Chapeauté 2. Je vais en parler parce que je l'ai vu cet après-midi avec mes enfants et j'ai vraiment adoré parce que c'est un film qui. C'est un dessin animé à destination d'un public familial et qui aborde quand même des sujets pas si anodins que ça, puisque on se retrouve. Alors, je vais essayer de pas trop spoiler quand même. On se retrouve avec le chapeauté qui a tellement fait l'andouille qu'il a beau être un chat qui a 9 vies, eh bien, il arrive à la dernière de ses vies. Et donc il y a la confrontation à la mort, il y a des thématiques de trauma. À un moment, on a des personnages avec des syndromes de post-traumatiques. On a la peur de l'abandon, on a ce genre de choses. On a la thématique de l'adoption aussi, de famille choisie, famille recomposée, etc. Et il y a évidemment des clins d'œil aux autres films de la licence, je vais dire, donc Shrek et tout ça. Il y a des, bon là c'est même plus des clins d'œil, hein, ou des références, on trouve des personnages d'autres contes. Donc c'est très drôle et c'est en même temps très très émouvant. Il y a un personnage qui peut-être être un peu impressionnant pour des enfants plus jeunes. Donc, il est marqué 7 ans et plus, violence légère. Et il y a un personnage qui peut être un peu effrayant. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment un chouette film.
Voilà. Très bien.
Eric, tu veux y aller ?
Si vous voulez. Oui, j'ai plein de trucs. Mais je vais vous parler du dernier... de mon dernier coup de cœur télé plus jeux vidéo. Jeux vidéo, j'ai à peine commencé. Mais c'est la même histoire. Il s'agit de Sandland, en deux mots, qui est au départ un manga de Akira Toriyama qu'on a perdu à peine 68 ans récemment et je ne m'en suis pas remis encore. Donc je m'étais dit que j'allais vous parler de ça. Donc c'est un manga one shot qui doit faire, je ne sais pas en fait, je ne l'ai jamais lu, mais qui fait qu'un seul bouquin. Il a été adapté au cinéma l'année dernière, mais qui a eu une toute petite sortie et qui vient de sortir en animé. En tout cas, chez moi, c'est visible sur Disney+, avec une version allongée. Il y a la conclusion du manga, si j'ai bien compris, arrive à peu près 6 épisodes et il y en a encore 6 après. Et donc, de quoi ça parle? Ça rappelle un peu Dragon Ball quand même, parce qu'on retrouve un peu les mêmes personnages. Ça se passe peut-être dans le même monde que Dragon Ball, mais après une catastrophe ou plusieurs catastrophes qui font qu'on est en mode post-apocalyptique là, classique, assez Mad Maxien, mais façon un peu toujours rigolo, comme Toriyama sait le faire. Dans Sandland, c'est donc un grand désert. On pense que le désert existait déjà il y a longtemps, mais qu'il a fini par manger toute la planète. Et en ce moment, il n'y a plus d'eau. La seule eau qu'on puisse avoir, il faut l'acheter à prix d'or à un roi tyrannique, hein, qui a une armée et qui empêche quiconque de trouver de l'eau qui ne soit pas payante. Et un jour, un vieux shérif, qui est peut-être un ancien militaire, peut-être un ancien héros de guerre, va demander de l'aide à des démons, parce que, évidemment, dans le désert, il y a aussi des démons. Et quand on dit démons, on pense forcément à des cornes et à Lucifer. Et Lucifer, il est là, c'est le roi des démons. Mais il y a aussi des centaures, des petits fantômes avec des ombrelles sur la tête parce qu'ils n'aiment pas la chaleur, et tout un tas de monstres rigolos comme ça. Et on va donc se retrouver avec une quête pour trouver une source oubliée, une source légendaire qui permettrait à tout le monde de s'affranchir du joug du roi, avec le vieux shérif, le fils de Lucifer, qui est le prince Belzébuth, qui est un petit gamin qui est super fort à la bagarre, et son vieux précepteur qui s'appelle Thief, voleur, qui est très fort pour piquer des trucs, et le vieux shérif, qui partent comme ça dans le désert et qui vont se retrouver avec plein d'aventures, plein d'ennemis. On va découvrir ce qui s'est vraiment passé, pourquoi l'eau a disparu et ce qui s'est passé dans la Grande Guerre d'autrefois. Et c'est vachement bien, c'est tout bête, en fait, j'ai envie de dire. C'est de l'aventure rigolote avec un peu de sentiment et pas mal d'action. Et c'est vraiment mignon je recommande. Alors, c'est de la 3D un peu cel-shaded. C'est pas de l'animation à l'ancienne, mais on retrouve tous les graphismes et toute la verve de Toriyama quand on l'aime. Et il s'avère que la semaine dernière, il est sorti un jeu vidéo adapté de ça qui vous permet de retracer la quête avec plein de, apparemment, de ce que j'ai vu pour l'instant, avec plein d'épisodes supplémentaires, les personnages qui apparaissent pas forcément au même moment, et qui vous permet de faire de l'aventure très, très JRPG, mais en temps réel, avec pas mal de combats de véhicules, avec des robots rigolos et des missiles, et on tire sur des ptérodactyles. Et on s'enfuit très très vite quand il y a un ver des sables monstrueux qui essaie de nous manger, avec un open world et plein d'endroits sympas à visiter. Je compte bien y passer une grosse partie de mon week-end, voilà.
Ça a l'air très bien, comme programme.
Ouais, ouais, je recommande.
Bah, du coup, moi je vais vous parler de Veil of Eternity, un petit jeu de cartes qui est sorti en 2023, donc il n'y a pas très très longtemps, qui est assez efficace. Du coup, on parlait d'initiation, d'accessibilité, d'investissement. Il n'est pas très cher, il coûte 27 euros. Je vous épargne des centimes. Le livre de règles tient en quelques pages. Les règles sont très bien traduites, très concises et très bien fichues. Ce qui est à souligner, ce n'est pas toujours le cas, que ce soit un jeu de rôle ou un jeu de plateau et de société. Et du coup, il a le mérite. Alors, c'est un jeu coréen. Designé par Eric Hong. Je vous passe tous les artistes, etc. Mais voilà, il y a une pléthore de gens qui ont travaillé autour. Et du coup, vous allez jouer des espèces de, pas de chasseurs de Pokémon, mais des chasseurs de créatures mythiques. Donc de divers cultures, vous allez retrouver des ondines, des gobelins, des géants, des ifrites, etc. Et à chaque tour, en fait, vous allez poser deux options sur ces créatures. Vous allez pouvoir les invoquer, les vendre. Oui, c'est pas très sympa, mais vous allez pouvoir les vendre. Et au fur et à mesure, vous montez une petite arène comme ça de créatures. Là où le jeu est très malin, c'est qu'il a une économie très tendue, puisqu'en fait, vous pouvez avoir en permanence maximum 4 jetons de monnaie du jeu. Il y a des monnaies qui vont de 1, 3 ou 6. Et il va falloir jongler avec cette limite de monnaie, mais aussi la limite de créatures, parce que vous ne pouvez pas avoir plus de créatures que le nombre de manches en cours, donc 1, 2, 3, 4, etc. Donc l'économie du jeu est très ciselée, il tourne très bien, et en fait, l'économie de cartes aussi est excellente, puisqu'il y a 60 cartes. Alors, les aficionados de jeux de cartes, etc., vont dire que c'est peu. L'intérêt, c'est que en fait, y a un peu tout qui se combocte avec tout. Donc, je pense que même après plusieurs parties, là, on en a une dizaine dans les pattes, même après plusieurs parties, tu n'as pas forcément des combos ou des choses qui se dessinent automatiquement, des stratégies qui te font gagner automatiquement. Tu dois vraiment t'adapter. Voilà. Le seul petit défaut que je lui trouve, c'est la direction artistique qui est assez inégale, en fait. Il n'est pas, voilà, enfin, elle ne m'a pas parlé, il n'est pas très joli. Ça va du bien au beaucoup moins bien, quoi. Mais hormis ça, excellent petit jeu de cartes pour 27€, avec une rejouabilité assez énorme.
Ça a l'air... Ah, je suis en train de regarder les photos, ça a l'air assez coloré, en tout cas.
Ouais.
Je vois pas les... Il ne montre pas forcément de gros plans sur les illustrations, donc...
En fait, il y a deux illustrateurs principaux qui ont bossé dessus, et des fois, en fait, moi je trouve qu'il y a un côté dissonant. Mmh. Ça manque d'uniformité, de cohérence, ouais. En fait, dans la ligne artistique. Mais c'est vraiment le seul défaut qu'on peut y trouver. Alors, on est loin, pour ceux qui connaissent, des Res Arcana ou des jeux de cartes très ciselés. Mais en fait, comme il est très simple, accessible et qu'il tourne super bien, bah finalement, tu dis, allez, on en refait une, et puis tu te retrouves à y jouer pendant 2-3 heures et tu t'en es pas rendu compte, quoi.
Ouais. Et voilà. Ben, je me le note. Et 2 à 4 joueurs, c'est ça, hein?
Ouais, 2 à 4 joueurs, exactement.
Et ça tourne aussi bien à 2 qu'à 4, ou tu n'as pas eu l'occasion de tester encore?
4, c'est un petit peu longué. Je dirais que le meilleur format, c'est 2 ou 3.
D'accord.
En fait, 4, c'est un peu longué pour ce que c'est, quoi.
Mmh. Souvent, c'est un peu l'inverse. C'est des jeux qui fonctionnent bien à 3 ou 4, et quand tu essayes à 2, t'embêtes.
Non, là, 2, ça tourne plutôt bien. Bon, en fait, le jeu, il s'adapte plutôt bien au nombre de personnes autour de la table, parce que l'offre de cartes va être établie par rapport au nombre de personnes. Tu as 2 cartes à chaque tour dans l'offre par joueur. D'accord. Ou joueur. Donc à 2, t'en as 4, à 3, t'en as 6. Et à 4, t'en as 8, ça commence à être un petit peu bordélique. Du coup, je pense aussi que ça va être pas le jeu, quoi. Okay. Mais bonne surprise. Ouais, pour moi.
J'ai vu à la fin de l'année dernière le film Une affaire d'honneur. C'est un film français de Vincent Pérez. Donc si vous le connaissez un peu, vous vous doutez, il y a des combats à l'épée dedans. Et c'est fin du 19e siècle, au moment où il y a beaucoup de duels d'affaires d'honneur. Les gens, ils se provoquent en duel. Et il y a un maître d'armes qui est impliqué, une histoire de vengeance et tout. Et il y a une femme qui est une féministe de l'époque et qui décide de provoquer quelqu'un en duel, sauf que les femmes, elles n'ont pas le droit de se battre. Donc le maître d'armes va la former et tout. C'est un film qui peut être assez dur par moment, qui est assez sobre dans sa mise en scène, et avec des combats à l'épée qui sont vraiment super bien tournés, très bien chorégraphiés et très bien filmés aussi. Et il y a une fille qui se bat avec une épée, donc pour moi c'est déjà un argument, mais peut-être pas pour tout le monde. Mais il est vraiment bien. Voilà.
Et du coup, moi j'ai pensé à un autre coup de cœur, c'est la série animée Luz à Hausville,
oui.
Qui me semble finie, qui fait 3 saisons, j'ai pas encore tout vu. Et donc, où on a une jeune humaine très fan de justement tout ce qui est les univers de fantasy, la magie, le monstre du Loch Ness, tout ça, elle est à fond. Et qui va se retrouver embarquée dans un monde justement de sorcières et de démons. Une sorte de monde parallèle un peu au nôtre, qui est construit sur le squelette d'un titan qui s'appelle les îles bouillantes. Et où elle va être la seule humaine de ce monde. Et il va se passer plein de choses. Et la première saison est extrêmement fun, extrêmement rigolote. Elle découvre le monde, elle découvre les écoles. Elle est recueillie par un personnage qui est le personnage de la Dame Chouette, qui est recherché par la police locale d'ailleurs. Donc il y a un potentiel de gaffe et tout ça assez énorme. La deuxième saison, le ton change un peu. On est dans un ton plus sombre, avec des enjeux pour les personnages beaucoup plus forts. Et la troisième, j'ai pas encore vu, mais c'est la fin de l'histoire, donc j'imagine que ça doit être assez chargé en émotions. Voilà. Et c'est aussi un de mes coups de cœur parce que je crois que c'est la première série animée avec un public cible familial et d'enfants que je connaisse où on a un personnage à genre et où c'est respecté par la VF. C'est-à-dire qu'à un moment, on a vraiment le pronom « Yel » qui est prononcé pour parler de ce personnage-là. Et je crois que c'est la première fois que j'entendais ça dans une VF de dessin animé fait vraiment pour des enfants et des familles, quoi. Et après, j'ai été voir la page wiki de la personne qui a créé Lusa Hauteville et qui dit qu'elle a dû un peu se battre avec Disney, parce que c'est fait par Disney, pour justement garder des romances entre deux ados. Et je pense que pour le coup du personnage à genre, elle a aussi dû peut-être un petit peu défendre son point de vue.
Oui, c'est assez LGBT friendly, en effet.
C'est très, très, très LGBT friendly, ouais. Et il y a une bonne représentativité aussi. Tous les personnages ne sont pas blancs, extrêmement minces, etc. quoi. Donc ça, c'est fun aussi. Voilà.
Eh bien, je crois qu'on a donné à nos auditeurs de quoi réfléchir.
Voilà. Eh bien, j'espère que ça aura plu, du coup. Je suis contente, je suis très heureux d'avoir pu partager... tout ça sur les jeux descendants de For the Queen, d'avoir découvert d'autres jeux que je connaissais pas. Et voilà, et n'hésitez pas à laisser des commentaires, nous dire vous si vous y a d'autres jeux que vous connaissez, que vous trouvez qui seraient chouettes à votre sens pour débuter, pour des gens qui connaissent pas du tout, etc. Voilà.
Ouais, et puis dites-nous si vous voulez qu'on demande à d'autres chroniqueurs de venir parler de leurs jeux d'initiation favoris. Parce que franchement, même nous, je pense qu'on a tous hésité entre plusieurs trucs.
Oui, ouais. Oui.
Il y a franchement de quoi faire.
Moi, j'ai triché parce que j'ai pris un truc où je pouvais parler de 80 jeux, donc
oui. C'est vrai.
J'ai salement triché.
C'est vrai.
Et moi, j'ai pris un jeu avec à peu près 850 scénarios possibles.
Et puis voilà, c'est des jeux avec plein de ressources. Hein. Moi, je tenais à mettre en avant-garde, même si. Bon, finalement, on se retrouve à parler de deux jeux OSR, mais je reste persuadé que c'est quand même une belle porte d'entrée, mais très riche en créativité et en ressources, quoi.
Ouais, carrément.
Eh bien, je crois qu'on peut conclure ici.
Parfait. Ben,
oui.
Mmh. Ouais.
Merci pour l'écoute.
Et allez jouer.
Ouais, c'est une bonne conclusion, ça.
Lancez-vous.
Je trouve c'est chouette.
Des énigmes ou des oubliants.
Pour surmonter des obstacles.
Des casse-têtes.
Ouais. Ouais. Je cherche un mot, mais je ne le trouve pas. C'est pas grave.
Ça reviendra quand on aura fini l'émission.
Ouais, oh, bien sûr.
J'ai confiance.
J'enregistrerai un petit paragraphe que Mathieu, tu pourras insérer à la minute 17, merci.
Alors, c'est déjà arrivé que Mathieu demande de refaire des phrases qui avaient mal été enregistrées pendant une émission. Donc, tout est possible. On peut refaire, si tu te rappelles du mot, tu peux refaire ta phrase dans 3 jours, si ça se trouve.
Ça marche. Si tu vas sur Facebook, tu as 25 personnes qui te disent de commencer avec Pathfinder 2 et bon courage.
Et que nous, on ne va pas parler de Pathfinder 2. Clairement.
On pourrait, mais je finirais par dire des gros mots, donc ce ne serait pas très inédit.
Puis bon, est-ce que tous les adultes, c'est pas un peu des enfants qui font semblant, finalement?
Sauf les politiciens.
Ben, je pense que c'est ceux qui font
des,
le plus
des
semblant,
histoires,
hein.
ils sont bons quand même. Hein.
C'est vrai, c'est pas faux.
Donc voilà.
C'est une tradition de l'émission ou ça en plus? Du coup,
traditionnellement, c'était hors jeu de rôle dans mes souvenirs, mais parce que je vois que.
Oui, c'est vrai, ouais. Enfin, ça peut être le jeu de rôle, mais ouais. C'est.
Mais ouais, en gros, c'est parler des choses qui nous ont plu, qui peuvent se rapporter au jeu de rôle ou nous inspirer en jeu de rôle, mais qui ne sont pas du JDR. Mais je vois que Sam, tu avais prévu de parler de jeu de rôle. Ce sont des choix que j'approuve personnellement, donc si tu veux une dérogation. Je t'en obtiendrai une de la part des patrons.
Je peux parler d'autre chose que jeu de rôle, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que j'avais pas le concept.